Et bien voilà, c'est enfin le week-end. J'espère que cette semaine s'est bien passée. Ravi de vous avoir avec nous pour un numéro de France Bleu Soir très en phase avec l'actualité, puisque nous allons vous faire découvrir Exfiltré, un film à suspense sur fond d'évasion de l'enfer de Daesh, avec l'un de ses principaux comédiens, Charles Berling. Vous le retrouverez après le journal de la rédaction. Oui. Bonsoir Frédéric Dorel.
Bonsoir Arnold, bonsoir à tous.
À Saint-Etienne, les murs ont des oreilles.
La ville va installer des micros, ou plutôt des capteurs sonores, dans un quartier sensible. Il s'agit de compléter son dispositif de sécurité. Les capteurs se déclencheront uniquement en cas de bruit anormal. L'augmentation du prix du tabac, le pneumologue Bertrand Dotzenberg applaudit. Chaque augmentation, dit-il, fait baisser le nombre de fumeurs. Le retour des enfants de djihadistes français. 67% des Français interrogés n'en veulent pas, d'après un sondage au Doxa. Nous serons en direct avec Nathalie Goulet, qui préside la commission d'enquête au Sénat sur les réseaux djihadistes.
La ministre des Transports promet de remettre en service tous les radars abîmés depuis le 17 novembre.
Ça concerne les trois quarts du parc. La tâche est immense. Le mouvement Gilets jaunes continue. Acte 16 demain. Emmanuel Macron appelle au calme. À minuit, les plus grosses entreprises du pays devront avoir remis leur bilan sur l'égalité des salaires hommes-femmes. Un premier pas pour faire avancer les choses. Nous irons voir comment ça s'est passé dans une de ces grosses sociétés. Et puis, vous recevez Charles Berling ce soir, Arnold.
Oui, tout à fait, pour un film intitulé Exfiltré, Charles Berling qui va nous retrouver dans quelques instants. Mmh. Exfiltré sort mercredi prochain, on va vous faire découvrir ce film riche en suspense, mais tout de suite le journal.
France Bleu Soir. France Bleu Soir. Arnold Derek, Frédéric Dorel.
Et pour démarrer le journal, Frédéric, nous partons tout de suite à Saint-Étienne où la ville remet à jour une vieille technique d'espionnage pour lutter contre la délinquance.
Des micros dans les rues, comme au temps de la guerre froide, des capteurs sonores vont être disséminés dans l'espace public d'un quartier difficile, Tarentaise, Beaubrun, Courriot, et ils se déclencheront, ces capteurs, dès que le bruit sera un peu fort. Les explications de Jean-Pierre Berger, qui est adjoint au maire à Saint-Étienne.
Ce qu'on va mesurer, c'est ce qui est anormal dans la ville. Donc si vous voulez, on va mettre en place des capteurs qui auront l'habitude d'entendre des bruits de klaxon, des bruits de voitures, des bruits de gens qui passent, etc. Donc ça, c'est pas d'anomalie. Par contre, s'il y a une anomalie, un bruit de glace, un accident de bagnole, quelqu'un qui hurle, je sais pas, un coup de feu, eh ben tout de suite, le capteur va déclencher. Le capteur, lui, est relié à une caméra qui va s'orienter tout de suite à l'endroit d'où vient le bruit, qui est donné par le capteur. La caméra va envoyer en direct sur le PC sécurité de la ville municipale, va envoyer en direct des images pour que les agents qui sont en place puissent décider et déterminer si c'est grave, si c'est pas grave, si c'est une anomalie. Si c'est pas une anomalie, l'intérêt étant d'être plus réactif et plus précis. Si c'est un accident de bagnole, tout de suite on va envoyer soit la police, si on voit que c'est grave, on envoie l'ambulance ou les pompiers.
Jean-Pierre Berger, adjoint à la mairie de Saint-Étienne. A priori, pas de danger donc pour nos conversations. Tant qu'on ne crie pas, elles ne risquent pas d'être entendues. Mais voilà une expérimentation qui devrait faire du bruit.
Fin de l'alerte pollution à Lyon et Villeurbanne.
La circulation automobile peut reprendre normalement. La vitesse n'est plus réduite et les voitures les plus polluantes peuvent rouler à nouveau.
Le tabac sera un mauvais souvenir dans 20 ans en France.
C'est le professeur Dotzenberg qui le dit. Le paquet a pris 50 centimes aujourd'hui. Il sera à 10 euros dans 20 mois. Et pour le tabacologue, c'est exactement ce qu'il faut faire pour dissuader nos 16 millions de fumeurs.
Ça marche très bien. L'année dernière, 12% d'augmentation du prix du tabac, 10% de cigarettes consommées en moins en France. Donc c'est un effet massif pour la santé publique. C'est des centaines de milliers, voire millions de fumeurs qui ne dépensent plus un sou pour leurs cigarettes parce qu'ils ont arrêté de fumer. L'incitation financière est très très efficace pour l'arrêt du tabac. Le tabac tue et arrêter de fumer, c'est quand même la meilleure chose à faire pour chacun. Le tabac sera un mauvais souvenir pour la France dans 20 ans.
Le tabac sera un mauvais souvenir pour la France dans 20 ans. Le professeur Bertrand Dotzenberg, pneumologue à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris.
Les Pays-Bas font désormais jeu égal avec la France dans la stratégie d'Air France.
Le ministre de l'économie hollandais est venu s'expliquer avec Bruno Le Maire sur la prise de participation de son pays au capital de la compagnie. Les deux pays vont mettre en place un groupe de travail pour renforcer la coopération à l'intérieur du cockpit.
Ce chiffre à présent qui nous interpelle, 67% des Français interrogés souhaite laisser les enfants de djihadistes français en Irak et en Syrie.
Il vient d'un sondage Odoxa réalisé sur Internet. Sondage qui dit aussi que 9 Français sur 10, ou presque, sont inquiets de voir revenir en France les adultes partis faire le djihad, même si c'est pour être jugés. Nathalie Goulet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sénatrice et vous présidez la commission d'enquête sur les réseaux djihadistes.
Oui, je l'ai présidée, oui.
Oui, 2 Français sur 3 qui redoutent et refusent de voir revenir ces enfants, ça vous fait réagir comment ?
Je vois pas à quel titre les enfants sont responsables des crimes de leurs parents. Donc, en plus, on parle d'enfants de quel âge ? On parle de quoi ? On parle d'enfants jeunes, c'est à cela qu'on pense, qui ont peut-être de la famille en France. Donc, de toute façon, il faut voir au cas par cas. Mais il n'est pas question de laisser des enfants dans ces conditions-là. Il faut absolument les ramener auprès de leur famille en France, surtout s'ils sont très jeunes, comme c'est le cas en général.
Même ceux qui ont encore leur père ou leur mère là-bas ?
Ça, c'est un autre problème. Mais quelle est l'autorité parentale ? Je veux dire, si les gens sont incarcérés, le problème des enfants avec leurs parents est un problème vraiment très sérieux. Mais vous voyez, il y a plusieurs cas de grands-parents, notamment, qui voudraient récupérer leurs petits-enfants avant qu'ils ne soient complètement perturbés, encore plus perturbés qu'ils ne le sont par une idéologie meurtrière. Enfin, vous voyez bien la difficulté.
Et est-ce qu'on peut considérer que ces enfants sont français? La plupart sont nés en Irak ou en Syrie, n'ont de français finalement que l'origine de leurs parents.
Moi, je pense qu'il faut de toute façon individualiser les cas. Il y a des enfants qui sont nés là-bas de parents français. Bon, et puis vous avez des jeunes enfants français qui sont partis avec leurs parents au moment où les parents ont décidé de partir en Syrie et en Irak. Mais d'un point de vue strictement humanitaire et d'un point de vue aussi de leur réadaptation en France, puisque un jour ou l'autre, les parents rentreront aussi, je pense qu'il est plus qu'urgent de prendre soin de ces enfants. Maintenant, on ne peut pas les retirer non plus à leurs parents. La question ne se pose pas exactement comme ça. La question, c'est ce sondage qui dit bon, ils sont là-bas, il faut les laisser là-bas. Moi, je ne suis pas tellement d'accord, et je pense que s'il y a de la famille en France, au cas par cas, il faut pouvoir ramener ces enfants pour qu'ils soient dans un milieu sain et surtout qu'ils ne soient pas victimes en plus de leurs parents qui les ont déjà... Enfin, je veux dire, globalement, les enfants ne sont pas responsables des crimes de leurs parents.
Et il serait encore plus dangereux de les laisser grandir là-bas. C'est ça aussi que vous
dites. Évidemment, parce que de toute façon, s'ils reviennent jeunes en France, ils seront, je pense, entre les mains de psychologues, de psychiatres, de leur famille. Certes, l'amour ne fait pas tout, mais laisser des enfants sur un terrain de guerre dans le dénuement complet, dans l'état dans lequel est en ce moment la Syrie ou l'Irak et les soldats défaits de Daesh, je ne crois pas que ce soit une bonne idée si on a la possibilité de ramener, surtout comme c'est le cas qui a été beaucoup évoqué, si vous avez des grands-parents qui souhaitent récupérer leurs petits-enfants, je pense qu'il faut plutôt faciliter le retour de ces enfants. Encore une fois, on travaille au cas par cas, on parle d'enfants très jeunes. Je crois qu'il y en a à peu près 80 qui sont venus sur le territoire récemment. Il y a à peu près, je crois, 400, peut-être un peu plus de 400 enfants qui pourraient être objet de ce retour en France. Je crois qu'il faut travailler au cas par cas, mais le principe de dire les parents ont péché, laissons donc les enfants aux mains de ces meurtriers, de ces terroristes, non, je ne suis pas d'accord.
Merci Nathalie Goulet, la question est sensible, c'est sûr. Sénatrice de l'Orne, merci, bonne soirée à vous.
Bonsoir.
Il est 19h08, restez avec nous pour la suite du journal de Frédéric Dorel. Nous y parlerons de l'acte 16. À la veille de ces manifestations des Gilets jaunes, Emmanuel Macron appelle au calme. L'égalité de salaire entre les hommes et les femmes. Les plus grosses entreprises doivent communiquer une estimation de leurs efforts en la matière aujourd'hui. On va voir comment ça se passe dans l'une d'elles. Mais d'abord, les radars abîmés ces derniers mois sur nos routes seront remplacés.
Alors c'est ce que promet la ministre des Transports, même s'ils sont nombreux à devoir être remplacé les 3/4 du parc. Il y aura de nouveaux radars, Martel Elisabeth Borne, parce que des radars hors service, c'est plus de morts sur les routes.
Oui, et cela dit, les automobilistes ne sont pas très pressés de les voir revenir.
Et à Toulouse, le préfet indique qu'ils seront remplacés le moment venu. Stéphane Iglesis.
Bâchés, brûlés, attaqués au marteau, c'est vrai que les radars, depuis la mi-novembre, ont été les victimes expiatoires de la colère, notamment du mouvement des Gilets jaunes. Étienne Guyot, préfet de la Haute-Garonne, doit l'admettre.
Au 31 décembre, on avait 5 radars détruits. Et si je veux être un peu plus précis, en janvier-février, on a eu 9 radars supplémentaires qui ont été détruits.
Sur l'ex-région Midi-Pyrénées, ce sont 138 radars qui ont été dégradés et 6 auteurs ont d'ailleurs été interpellés. En Ariège, le radar de Saverdin, près de chez Jacques, ne fonctionne pas beaucoup.
Il est dégradé en permanence et dès qu'il est réparé, bien le lendemain matin, il est soit bâché, soit brûlé. Voilà, c'est comme ça tout au long de la semaine. C'est une catastrophe parce que la vitesse augmente et j'ai payé personnellement la mort de mon fils qui a été malheureusement assassiné par un excès de vitesse.
Théo, étudiant et motard, est originaire de l'Ariège et il reconnaît qu'un radar endommagé, ça a quelques conséquences.
Et du coup, on accélère aussi devant, forcément, on freine moins, quoi. Moi, je viens d'Ariège, donc on est spécialiste dans le pourrissage de radar. Que ce soit à la bâche, à la peinture, il y a des gens qui sont créatifs là-dessus. Hein. C'est bien, ça stimule l'artiste qui est en chacun.
Selon la ministre des Transports, Elisabeth Borne, le nombre d'excès de vitesse a augmenté de 270% et elle indique que le manque à gagner des recettes de radar peut mettre en péril les investissements transports cette année.
Stéphanie Glézis à Toulouse pour France Bleu.
Les routes, justement, la journée est orange en Ile-de-France, Bourgogne-Franche-Comté et en Auvergne-Rhône-Alpes.
C'est le dernier week-end de vacances pour la zone A, la C est au milieu des siennes et il y a déjà beaucoup de monde hein, ce soir autour de Grenoble, Chambéry et en vallée de la Tarentaise.
Ce samedi est aussi un nouvel appel à rassemblement pour les Gilets jaunes.
Le 16e, Bar-le-Duc dans la Meuse craint notamment des débordements et Emmanuel Macron espère que ça se passera plus calmement cette fois.
Aujourd'hui, le pays a besoin d'un retour au calme. Je pense que la situation que nous vivons n'est plus compréhensible par nombre de nos concitoyens. Je pense que beaucoup devraient avoir soit l'introspection, soit simplement vous écouter pour se rappeler ce que notre pays a pu vivre par le passé et ce dont il est revenu. Et je pense que cette force d'âme doit inspirer dans la période pour que chacun revienne au fond au civisme, à la capacité de vivre ensemble et d'accepter les accords et les désaccords. Parce qu'une société démocratique dans laquelle chacun peut exprimer avec la plus grande violence le moindre de ses désaccords, plus aucune règle n'existe, et où au fond, la logique viendrait à dire « plus personne n'est digne de me représenter, je dois chaque samedi dire ma part de vérité, y compris dans la violence la plus extrême », c'est intolérable. Et à la fin, c'est la négation de la démocratie.
Emmanuel Macron à Bordeaux aujourd'hui, alors qu'Alain Juppé passait sa dernière journée de maire de la ville.
Emmanuel Macron qui veut donner mardi le départ de la campagne pour les élections européennes, il publiera une tribune destinée aux 28 pays de l'Union, y compris le Royaume-Uni.
En Algérie, plusieurs milliers de manifestants se sont fait entendre aujourd'hui.
Ils répètent depuis une semaine qu'ils ne veulent pas d'un cinquième mandat de leur président Abdelaziz Bouteflika, diminué par un AVC en 2013. Il y a eu des heurts avec les forces de l'ordre. On compte une dizaine de blessés. Une info à suivre sur francebleu.fr.
Ce 1er mars est une journée importante pour l'égalité hommes-femmes.
Les entreprises de plus de 1000 salariés ont jusqu'à minuit pour communiquer leur index. C'est une note sur 100 qui mesure les écarts de salaire. C'est aujourd'hui pour les plus grosses, mais les autres suivront dans l'année. Claire Chaudière est allée voir comment ça se passe dans une des sociétés concernées.
Des milliers de données salariales et d'évolution de carrière compilées et passées à la moulinette du nouvel outil de mesure des inégalités, un gros tableur Excel. Résultat ?
Le score total est de 89 sur 100.
Nous avons une bonne note, nous en sommes fiers.
Nous voici chez Nexter, groupe industriel dans le secteur de l'armement. Pour piloter l'opération un binôme au sein de la DRH, Catherine Roux et Jean-Yves Latre, l'entreprise perd des points sur le top 10 des salaires.
Cet indicateur me semble très ambitieux.
Vous avez combien de femmes dans les 10 plus hautes rémunérations ?
Aujourd'hui, nous en avons zéro. Voilà.
Mais elle obtient une bonne note sur les promotions féminines et les augmentations au retour de congés maternité, tout comme sur le critère principal, égalité salariale à poste et âge équivalent.
On n'était pas trop inquiets. On corrige systématiquement tous les écarts relevés s'ils sont supérieurs à 5%.
Merci beaucoup, bonne journée.
Tout en saluant une note globale plus qu'honorable, certains syndicats s'interrogent sur le degré d'exigence de ce tout nouvel index, peut-être pas si élevé que ça pour Éric Brune de la CGT chez Nexter.
On est dans une entreprise où il y a 80% d'hommes et 20% de femmes seulement. On arrive à une égalité niveau par niveau. Le problème, c'est que pour le moment, les femmes n'occupent pas les mêmes postes que les hommes. Pour nous, il n'est pas assez contraignant. On manque d'ambition.
Les 1400 premières entreprises concernées ont jusqu'à ce soir minuit pour publier leur score.
Claire Chaudière pour France Bleu, les entreprises qui ont moins de 75 sur 100 ont 3 ans pour corriger le tir, sinon les sanctions seront financières.
Allez, une dernière info, ne partez pas en week-end sans le savoir, la gendarmerie rejette la candidature de Francis Lalanne pour être réserviste.
À cause de ses propos contre le gouvernement au moment des Gilets jaunes, il avait dit, ce sont eux, Emmanuel Macron et Christophe Castaner, qui créent la violence et sont à l'origine de tous ces crimes contre l'humanité, contre des innocents. Des mots incompatibles avec le devoir de réserve et la neutralité à respecter quand on est gendarme.
Ce serait la maison du bonheur, même un fort loyer, je suis preneur.
La Maison du Bonheur, Francis Lalanne, en 1979. À l'époque, il ne rêvait pas d'être gendarme.
Voilà, on va vous laisser retrouver la vôtre de Maison du Bonheur. Allez. Frédéric Dorel, merci pour toutes ces informations. On vous retrouve lundi, bon week-end.
Et bonne émission avec Charles Berling.
Exactement, le film Exfiltré après ce point météo.